Bonjour à toutes et à tous, il est quasiment 12h30, donc je vais prendre la parole quelques secondes pour arriver à l'heure fatidique. En tout cas, je profite de cet instant pour vous souhaiter à toutes et à tous, au nom de toute l'équipe de RECA, nos meilleurs voeux pour cette année 2026. J'espère que vous avez eu l'occasion, que vous aurez l'occasion de découvrir notre espace montagne, le Labo Montagne, qui a été entièrement rénové à l'occasion des 30 ans du Centre de Culture Scientifique. Et également, je suis très heureux de vous accueillir pour ce premier entre-midi sciences de la saison, de l'année 2026, avec un sujet plutôt d'actualité, mais malheureusement plutôt grave. Nous allons parler du burn-out. Et donc, nous allons nous poser un certain nombre de questions. De quoi s'agit-il exactement lorsqu'on parle de burn-out? Comment le prévenir? Quel est le lien avec le stress chronique? Comment éviter justement cette souffrance, en particulier dans le milieu du travail? Voilà, autant de questions que nous souhaitons nous poser aujourd'hui. Et pour y répondre, nous avons la chance d'avoir un chercheur en psychologie, Nour Chibou. Donc vous êtes au laboratoire LIP PC25, 2S, pardon. Les écrits tout petits sont montés. Puis mes collègues écrivent de plus en plus petits. Donc c'est le laboratoire interuniversitaire de psychologie, personnalité, cognition, changement social. Donc de l'Université Savoie-Mont-Blanc. Donc en tout cas, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Pour ceux qui ne connaîtraient pas les entreprises des sciences, je vous réexplique en quelques secondes le concept. Nour, vous avez une demi-heure pour nous exposer les concepts et la problématique. Et nous garderons la dernière demi-heure pour pouvoir dialoguer, échanger, débattre sur ce sujet. Voilà le fonctionnement des entreprises des sciences. Merci à tous d'être venus aussi nombreux. Désolé, on ne peut pas agrandir les murs, malheureusement. Et donc, je vous laisse la parole. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci beaucoup, Jean-Yves. Alors, déjà, merci à toutes et tous, effectivement, d'être aujourd'hui nombreuses et nombreux pour un sujet qu'on partage un petit peu toutes et tous, qui est donc le burn-out. Donc aujourd'hui, évidemment, on va parler stress. On va parler burn-out, on va parler stress chronique, on va également parler du lien très étroit qui peut exister entre le stress chronique et l'épuisement professionnel. Bien sûr, si on a un petit peu de temps, et ça sera tout l'enjeu sur les 30 minutes qui me sont allouées aujourd'hui, on essaiera d'aborder quelques outils de prévention. Je vais casser le suspense tout de suite, il n'y a pas de solution magique, d'accord ? Mais on va quand même essayer d'en discuter, de débattre. Et l'idée, bien sûr, c'est qu'on puisse enrichir un petit peu tout ce débat qui existe aujourd'hui autour de la difficile question qui est le burn-out. Alors, je vous propose de commencer tout de suite. La première chose que je trouve intéressante quand on parle de burn-out, c'est déjà de faire le lien avec le stress. Alors, je pense que toutes et tous, vous êtes certainement demandé un jour, est-ce que vous sentez stressé? Est-ce que la société vous stresse? Est-ce que le travail vous stresse? Et en fait, on ne sait pas trop de quoi on parle quand on parle de stress. Et je pense que, déjà, une première chose qui pourrait être intéressante avant de commencer à aborder la question du burn-out, c'est de comprendre ce qu'est le stress et de quoi on parle. Et vous voyez, cette courbe, elle nous montre un petit peu l'occurrence du terme de stress dans les ouvrages français depuis 200 ans. Et on se rend compte qu'il y a un pic à partir des années... je connais l'année, c'est un peu triché, mais 36, d'accord? Donc autour des années 40. Et pourquoi il y a un pic? Donc c'est un petit peu la première fois qu'on va parler de stress en France. Et alors, si on veut discuter de cette question du stress, ça peut être intéressant de revenir à la base. Quelle est cette définition? Eh bien, le stress, c'est quoi? Si on repart rigoureusement à la première définition qui est donnée du stress, il faut repartir à Hans Selye, qui est un médecin endocrinologue, d'accord, qui a travaillé au Canada, un chercheur, et qui s'est intéressé à la question du stress. Alors, avec tout le contexte éthique de l'époque, monsieur Hans Selye, qu'est-ce qu'il faisait? Il injectait des extraits de glandes à des rats, d'accord, voilà, c'est très passionnant, mais ces extraits d'hormones, il y avait une particularité, il s'est rendu compte que peu importe l'extrait de glandes qu'il injectait dans les rats, les rats avaient tous la même réaction. Et donc, cette réaction-là, il l'a appelée le syndrome général d'adaptation, on y reviendra un petit peu plus tard, mais c'est la première fois qu'on parle de stress. Et ça, c'est extrêmement important parce que aujourd'hui, souvent, quand on parle de stress, on pense que le stress, c'est l'événement. Vous voyez, cet événement me stresse, cet événement est stressant. En fait, rigoureusement, quand on parle de stress, on parle de réponse non spécifique de l'organisme à toute demande qui lui est imposée. Et là, déjà, avec cette définition, on comprend plusieurs choses. On comprend qu'il y a une demande, c'est-à-dire qu'il y a un stresseur avant d'avoir le stress. Et qu'en fait, le stress, ce n'est pas le stresseur. Le stress, c'est la réponse de l'organisme à ce stresseur. C'est le processus qui nous mène à l'adaptation. Donc en fait, quand on parle de cette définition, il y a des choses qui sont très intéressantes. Déjà, c'est de comprendre que le stress, ce n'est pas une mauvaise chose. Et là, on va commencer à rentrer un petit peu dans la complexité. C'est qu'en fait, le stress, la mission principale du stress, c'est l'adaptation. Heureusement qu'on stresse. Mais on va en discuter. Alors, bien sûr, on rentrera pas aujourd'hui dans les... En plus, c'est affiché un peu bizarrement, mais on rentrera pas dans les complexités de la réponse psychophysiologique de stress qui nécessiterait bien plus d'une heure. Mais je pense que c'est important qu'on parte sur des bases. Alors, je vais essayer de simplifier ça. Il faut imaginer que quand vous avez cette réponse d'adaptation, d'accord, quand vous avez cette réponse de stress, vous avez deux équipes. Alors, vous avez une équipe qui est très rapide. D'accord, c'est ce qu'on appelle la réponse nerveuse. Ok, c'est la réponse qui va se mettre en place le plus rapidement dans l'organisme. Et en fait, cette réponse-là, elle va nécessiter donc un système qui est extrêmement important qu'on appelle le système nerveux autonome. Alors, le système nerveux autonome, qu'est-ce que c'est globalement? C'est ce qui vous permet de respirer quand vous dormez. Ok, heureusement qu'il est là. Vous n'avez pas besoin de vous dire il faut que je respire, parce que sinon, voilà, vous mourrez. Donc évidemment, le système nerveux autonome, heureusement qu'il est là. Et puis dans ce système nerveux autonome, eh ben vous avez un frein et un accélérateur. Ok? Et donc l'accélérateur, c'est ce qui va se mettre en place rapidement. Donc quand vous vivez une situation stressante, d'accord, quand vous voyez un stresseur en face de vous, ce qui va se passer déjà, c'est que vous allez avoir une activation de l'organisme. Vous allez avoir ce qu'on appelle la mydriase, la dilatation des pupilles, le cœur qui va plus vite, c'est un peu de transpiration, pourquoi pas. Donc en fait, ça va vous permettre de faire face à l'environnement stressant. Et dans un second temps, vous avez une deuxième équipe qui va arriver, qui va arriver un peu de temps après, qui est une réponse qui est hormonale. Et la réponse hormonale, elle va mettre un peu plus de temps à se mettre en place et elle va permettre notamment au surrénal de sécréter du cortisol dans le sang. D'accord ? Donc l'activation sympathique dans un premier temps, ce qu'elle va permettre, c'est la sécrétion d'adrénaline et puis d'autres hormones, mais on va simplifier au maximum, d'accord ? Adrénaline, noradrénaline, et puis dans un second temps, vous avez le cortisol. C'est ça qu'il faut retenir. Dans un premier temps, adrénaline, l'organisme se met en place et puis ensuite vous avez le cortisol. Deux équipes. Une équipe nerveuse qui fonctionne rapidement, une équipe hormonale qui fonctionne un peu plus lentement et qui reste aussi plus longtemps. Alors, à quoi elle sert cette réponse? Eh bien, elle sert à plusieurs choses. Déjà, imaginons que vous baladez et que vous croisez un tigre à dents de sabre. Eh bien, évidemment, cette réponse, elle nous permet de nous adapter à la situation, d'accord? Elle nous permet d'avoir le choix entre fuir, se figer ou combattre. Alors, heureusement qu'il y a cette activation de l'organisme. Là où il y a un souci, c'est qu'aujourd'hui, les demandes de l'environnement, elles ont changé. Par contre, notre réponse physiologique, l'adaptation, elle n'a pas bougé. Et ça, ça peut poser un souci. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, on n'est plus à même de stresser parce que, eh bien, on a un dossier à rendre que parce qu'on croise un tigre à dents de sabre. Ça, évidemment, eh bien, c'est un souci pour l'organisme. Vous voyez ? Donc, le stress, ce n'est pas une mauvaise chose, mais par le biais des demandes environnementales qui ont changé et la non-adaptation de notre organisme, il peut déjà y avoir un petit souci. Alors, j'aimerais qu'on revienne quand même sur un point très important qui est l'aspect non spécifique de la réponse de stress. Ça, c'est fondamental. On va repartir dessus parce qu'Hans Selye, effectivement, il parle de quelque chose de très juste en fait. Hein. Il dit que le stress est avant tout une réponse physiologique, mais comment on explique les différences interindividuelles? Comment on explique que, par exemple, une personne va stresser plus qu'une autre? Eh bien, pour ça, il faut remercier d'autres chercheurs dans le domaine, qui sont Lazarus et Folkman. D'accord? Dans les années 80, Lazarus et Folkman, ils vont changer le paradigme du stress. On va plus forcément s'intéresser à la réaction physiologique, on va s'intéresser aux différences interindividuelles que les individus vont avoir entre eux. Alors le modèle ici, bien sûr, on ne va pas rentrer dans la complexité, mais on va essayer de le simplifier un petit peu. Vous imaginez un événement, d'accord? Je me balade dans la forêt, je croise un ours. Il va se mettre en place deux phases d'évaluation. Une phase d'évaluation qui va déjà être primaire. Est-ce que je me sens en danger? Si oui, il va y avoir une deuxième phase d'évaluation. Tout ça, bien sûr, c'est très rapide. La deuxième phase d'évaluation, c'est est-ce que j'ai les ressources nécessaires pour faire face à cet ours? Est-ce que je suis capable ou pas de lui faire sa fête? Vous voyez? Alors, si je me sens capable de faire la fête à l'ours, eh bien évidemment, je vais moins stresser parce que j'ai les ressources nécessaires pour le faire. Et si, à l'inverse, je pense que je ne fais pas le poids, eh bien, je vais stresser un peu plus que mon collègue. Et donc, c'est ça, la distinction, c'est que, oui, il y a une réponse physiologique, mais elle n'est pas si aspécifique que ça, finalement, elle va aussi dépendre de l'évaluation que la personne va en avoir. Donc en fait, on comprend une autre chose ici. On comprend que ce n'est pas tant la situation qui vient provoquer le stress, c'est l'évaluation que l'individu va en avoir. Et ça, c'est très important pour comprendre justement eh bien, comment le stress s'installe dans l'organisme. Alors, ici on a parlé de la réponse de stress, d'accord ? On a parlé de la réaction physiologique. Maintenant, on va faire le lien entre le stress aigu et le stress chronique. À partir de quand le stress devient chronique ? Alors, pareil, on peut attribuer ça à Anseli, d'accord, qui va publier en 1956 dans The Stress of Life, il va essayer de parler concrètement de ce modèle et qui est le syndrome général d'adaptation, il va essayer de le définir et de l'appliquer donc à la vie quotidienne. Et puis il va définir trois étapes fondamentales pour comprendre le stress. Il va dire, d'abord il y a une réaction d'alarme. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, l'adrénaline qui se met en place, l'amygdale, l'activation physiologique, et l'organisme se met en place pour faire face à l'environnement stressant. Ensuite, il y a une phase de résistance. D'accord ? Les êtres humains, comme tous les êtres vivants, nous sommes des êtres on est très adaptatifs, et donc on est capable de s'adapter. Dans un environnement stressant, on peut le faire. D'accord ? Donc on va créer un nouvel équilibre où l'organisme il est capable de s'adapter. Mais vous imaginez bien que cette adaptation, elle est coûteuse. Elle va demander de l'énergie à l'organisme. Et donc, définit une troisième phase, qui est une phase d'épuisement. Où en fait, l'organisme n'est plus capable de s'adapter à l'environnement stressant. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il s'épuise. Et c'est ici qu'on va pouvoir comprendre un petit peu les différentes pathologies aujourd'hui qui sont associées au stress chronique. Donc, finalement, ce qui est important de retenir dans ces diaporamas, c'est que ce qui est important, c'est pas tant le stress aigu. Ce qui est important, c'est le stress chronique. Quand on veut prévenir le stress, on ne veut pas vraiment prévenir l'adaptation. Heureusement qu'on stresse. Le stress, c'est l'adaptation. Si on ne stresse pas, on meurt. Par contre, si le stress se chronicise, si le stress s'installe dans l'organisme et s'il reste longtemps, eh bien, ici, on peut avoir des effets délétères sur la santé physique et mentale. Alors, pour comprendre un petit peu de quelle manière ça peut se passer, alors on va simplifier un petit peu, bien sûr. Une réponse normale d'adaptation, ce serait celle-ci. D'accord ? Vous avez la montée, ici, l'activation de l'organisme. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, adrénaline, cortisol, d'accord ? L'organisme fait face. Et puis ensuite, une phase où on récupère. Parfait. Vous vous êtes adapté. D'accord ? Par contre, ce qui peut se passer également, ce qu'on dit stress chronique, mais en fait, à partir de quand c'est nocif ? Eh bien, on peut imaginer qu'il y a plusieurs fois, à travers le temps, cette réponse normale de stress. Et si elle dure longtemps dans le temps, eh bien, c'est délétère pour l'organisme. Ça, c'est un premier pattern. Vous pouvez également avoir une réaction qui ne changerait pas face à un même stresseur. D'accord ? Nous sommes des êtres, encore une fois, qui sont très adaptatifs. Et donc, face à un même stresseur, on est capable de nous adapter. Or, pour certaines personnes, c'est difficile. Et on peut, du coup, avoir une courbe, vous voyez, qui est différente. On voit que la réaction de stress reste la même. On peut également avoir une réaction de stress qui diminue jamais. Et ça, c'est quelque chose qui est très très couramment observé dans le cadre du stress au travail, par exemple, pour amener du travail chez vous. Et donc, le stress, il continue d'affluer. La réaction de stress, elle redescend jamais. Vous êtes toujours sur le qui-vive. On peut imaginer également qu'à un moment donné, eh bien, la réponse, elle ne se fasse même plus. Vous êtes tellement épuisé que vous n'êtes même plus capable de vous adapter. Et ça, c'est ça, le danger du stress. C'est le stress chronique. D'accord ? Et donc ça, c'est un mot qui est très très important, qui a été développé par McEwen, qu'on appelle la charge allostatique. C'est le coût que va avoir l'organisme, d'accord ? La dette que l'organisme va avoir quand il essaye de s'adapter. Ça, c'est la surcharge allostatique. Et alors, cette surcharge allostatique, eh ben, elle peut mener à différentes conséquences, notamment des maladies chroniques, des troubles affectifs, on peut parler de la dépression, on peut parler de l'anxiété. On peut bien sûr parler aussi de certaines altérations structurelles, mais aussi fonctionnelles dans le cerveau. On va également parler, bien sûr, de burn-out, d'épuisement professionnel. Vous imaginez que si vous avez un travail et que vous vivez une réaction de stress quotidienne et que cette réaction elle commence à s'installer sur le long terme, eh bien, progressivement, eh bien, vous allez peut-être développer un épuisement professionnel. Et cet épuisement professionnel, il faut déjà qu'on le définisse. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que l'épuisement professionnel ? Alors le burn-out, il faut revenir, encore une fois, aux années 74, à la base. La première définition, c'est un état de fatigue ou de frustration qui va résulter d'un dévouement prolongé à une cause, un mode de vie ou une relation qui n'aurait pas apporté les récompenses attendues. Frodenberger, 1974, qui va commencer à s'intéresser à cette problématique. Donc lui, Frodenberger, c'était un psychologue, et puis eh bien, il va travailler sur ses patients à lui, et il décide aussi de travailler bénévolement dans une clinique. Alors à l'époque, on disait, voilà, polytoxicomane, et donc il travaillait également dans cette clinique-là, et il s'est rendu compte que eh bien, ses ressources s'épuisaient. Et donc, c'est de lui que revient cette métaphore hein, du feu intérieur. Souvent, quand on parle de burn-out, en fait, c'est de ça qu'on parle. C'est une ressource qui s'épuise, une bougie qui s'éteint. Et ensuite, on va scientifiser un petit peu le problème avec Christina Maslach et Suzanne Jackson en 1981. Où en fait, le burn-out, pour elle, ce n'est pas forcément quelque chose qui serait unidirectionnel, mais ça prendrait plusieurs dimensions. D'accord ? Et alors toujours, ce serait le résultat d'un stress professionnel chronique, mais il y a trois dimensions qui sont fondamentales, qui sont la première dimension qui est l'épuisement émotionnel, donc une conséquence. Vous voyez, vous sentez un émoussement de vos propres émotions, une difficulté de reconnaître vos propres émotions, mais aussi d'accéder à celles des autres, et une dépersonnalisation ou encore froideur, cynisme, donc un détachement vis-à-vis d'autrui, et une réduction de l'accomplissement personnel. Vous perdez le sens dans votre travail. Et en fait, ça, cette observation-là, elle a été menée chez les soignants. D'accord ? Donc, cette définition du burn-out, aujourd'hui, elle est encore utilisée à l'international par l'OMS et d'autres institutions. Aujourd'hui, on ne va pas parler des complexités de la définition du burn-out, on va rester sur celle-ci car c'est la plus utilisée et c'est encore celle qui fait sens quand on vient parler d'épuisement professionnel. Et, bien sûr, C'est comme un petit peu toutes les problématiques en psychologie. Quand on veut prévenir le burn-out, il faut partir du principe que c'est déjà un phénomène qui est multifactoriel. Il y a plein de pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Et je pense qu'il y en a deux qui sont très importants. Le premier, c'est de dire, vous êtes responsable de votre épuisement. Vous voyez ? Facteur individuel. Je fais un petit rappel très, très, très bref. Hein. On rappelle aujourd'hui qu'il n'y a pas de catégorie nosographique pour l'épuisement professionnel. C'est difficile de le diagnostiquer. Absent des différentes classifications internationales, absent du DSM, absent de la CIM, pour diagnostiquer le burn-out, aujourd'hui c'est difficile. C'est plus facile de dire vous êtes en dépression, parce que vous êtes responsable de votre dépression. Mais dire vous êtes épuisé à cause de votre travail, c'est plus difficile. Ouais. Donc ce piège, il ne faut pas tomber dedans. Il ne faut pas dire vous êtes responsable de votre épuisement, en tout cas c'est la position que je prends. La deuxième piège dans lequel il ne faudrait pas tomber, ce serait de dire vous n'êtes pas responsable de votre épuisement. Vous ne pouvez rien faire, vous êtes condamné. Ce serait aussi un piège, parce que on ne comprendrait pas pourquoi des personnes agissent différemment face à l'épuisement. Et c'est ça qui est important aussi, c'est de se dire, tout le monde n'a pas les mêmes ressources face au stress. Donc, il faut comprendre que le burn-out, c'est pas juste l'individu, c'est pas juste l'environnement, en fait, c'est une relation qui est complexe entre les deux. Donc on a des facteurs individuels, on a des facteurs relationnels, et bien sûr on a des facteurs qui sont contextuels. Alors, encore une fois, ici vous verrez pas grand chose, je vais pas... C'est vous donner une idée de la complexité des déterminants de l'épuisement professionnel. Il y en a des centaines, d'accord ? Et si on veut vraiment rentrer dans les détails, eh bien on est obligé à un moment donné de regarder lesquels prennent bien le plus de poids. Eh bien on voit que par exemple la charge de travail c'est extrêmement important. L'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle c'est quelque chose d'important. Mais également les stratégies que vous allez mettre en place vous pour faire face à la situation stressante c'est important. D'accord ? La cohésion au sein d'une équipe au travail, c'est important. Vous avez différents facteurs individuels, contextuels et relationnels. Et alors, pour prévenir l'épuisement professionnel, eh bien, vous avez différentes formes d'intervention. Vous avez des interventions qui vont être très centrées sur l'individu. D'accord ? C'est un petit peu la casquette que je prends aujourd'hui, même si j'ai très envie de faire bouger les choses de façon structurelle. Aujourd'hui, la casquette que j'ai, c'est celle d'un psychologue. D'accord ? Et plus précisément d'un apprenti chercheur en psychologie. Donc, celle qu'on va discuter aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous, à votre échelle, eh bien, vous pouvez faire ? De quoi vous êtes capable ? Et ces interventions-là, elles ont le bénéfice eh bien, de rendre l'individu flexible. si vous changez d'environnement, vous conservez les ressources, vous conservez les compétences que vous avez acquises. Lorsqu'on parle d'intervention organisationnelle, eh bien, on a des interventions qui sont plus efficaces. Changer l'organisation au sein d'une institution, c'est ce qui fonctionne le mieux. Changer la charge de travail, augmenter le nombre de personnel, favoriser la communication, rendre les personnes plus autonomes dans leur travail, leur donner plus de contrôle. Ça, c'est des choses qui fonctionnent. Pour autant, si l'individu change d'environnement, eh bien, il reste épuisé. Donc, en fait, chaque intervention va avoir son avantage. Bien sûr, l'idéal serait de coupler les deux, d'avoir des interventions qui ciblent et l'individu, en favorisant ses ressources, en améliorant les stratégies qu'il va mettre en place pour faire face au stress, mais aussi des stratégies eh bien, qui vont être organisationnelles et qui vont changer la structure de l'environnement dans lequel l'individu est. Donc, voilà, vous avez un petit peu le panel de ce qui peut se faire. Et, eh bien, moi, je m'inscris dans donc, la première, d'accord, forme d'intervention, qui serait une intervention plutôt individuelle, et qu'on appelle programme cognitif et comportemental de gestion du stress. Ça, c'est mes travaux de thèse. Moi, mon objectif, c'est de mettre en place ces programmes-là au sein d'hôpitaux en France, plus précisément donc, au centre hospitalier Métropole de Savoie, à Chambéry, mais aussi au CHUGA, à Grenoble. Et donc, mon objectif, c'est de mettre en place ce programme pour voir si eh bien, on peut améliorer les ressources des individus pour faire face aux situations stressantes, et notamment au sein d'hôpitaux. Alors, évidemment, ce programme, il a été construit assez récemment, en psychologie c'est assez récent, donc il a été construit dans les années 2000 par Anthony et Carver, qui sont des chercheurs de l'université de Miami, et initialement il a été mis en place pour des personnes atteintes de maladies chroniques. Et ensuite, on a adapté ce programme, et on s'est dit, ok, c'est un programme qui est complet, d'accord, c'est entre 8 et 10 séances qui vont cibler à chaque fois un thème spécifique lié au stress. Et donc, chaque thème va avoir un sens individuel. Donc, par exemple, vous avez une première séance qui va déjà vous permettre de prendre conscience de la situation stressante. Qu'est-ce que c'est que le stress? Comment vous stressez? Quelle personne vous êtes quand vous stressez? Est-ce que pour vous, par exemple, le stress, c'est plutôt des ruminations? Est-ce que ça se manifeste par la pensée? Est-ce que ça se manifeste plutôt par des tensions? On n'a pas le temps, aujourd'hui, de se poser cette question-là. Donc, les premières séances, elles vont plutôt être de cet ordre-là, prendre conscience. Et puis ensuite, on va faire le lien entre pensée et émotion, comprendre que finalement c'est très lié, que les pensées influencent nos émotions, que l'interprétation qu'on va avoir de la situation va venir influencer directement la sensation et le sentiment qu'on va avoir. Et ensuite on va travailler bien sûr sur les stratégies qu'on va mettre en place, d'accord? Vous vivez une situation stressante, qu'est-ce que concrètement vous pouvez mettre en place pour éviter, d'accord, l'épuisement, voire un stress que vous n'avez pas envie d'avoir. Donc ce programme, il faudrait 16 heures pour le présenter, parce que c'est le temps de formation que je donne aux soignants. C'est 16 heures. Aujourd'hui, j'ai 30 minutes. Donc, je ne vais pas vous présenter le programme. Bien sûr, on survole, hein, y a des choses qui sont, voilà, qui sont complexes. Mais l'idée, c'était de vous dire que oui, en fait, il y a des solutions individuelles. Et puis, peut-être que je peux vous proposer quelques outils. On peut essayer de le faire ensemble. On va faire ça. Là, du coup, là, je pars un petit peu sur... je vois le temps qui me reste et puis je vais aviser au niveau des outils que je vais vous présenter. Mais on va en faire quelques-uns. Je vais vous donner un exemple. Ok. On va imaginer que vous êtes en voiture. Vous attendez un téléphone, et le téléphone ne vient pas. C'est une personne importante, d'accord? Et là, je vais vous solliciter, quelle réaction vous pourriez avoir? À votre avis. Vous attendez un téléphone, le téléphone ne vient pas, qu'est-ce que vous vous dites? C'est la première pensée qui vous vient à l'esprit.
La personne est morte?
Peut-être que la personne est morte. On va vraiment dans l'extrême, donc il lui est arrivé quelque chose. Est-ce que vous avez peut-être d'autres pensées? Il a oublié, il n'a pas le temps, ok? Il n'a peut-être pas de date. Ouais. Effectivement. Donc, là, vous voyez, vous avez la même situation, et la même situation a été interprétée différemment. Donc, ça, c'est intéressant. Et nous, quand on va venir travailler avec la personne, on va venir travailler sur cette première interprétation. Parce que parfois, il faut imaginer que le cerveau, c'est un flemmard. Quand le cerveau, quand il vit une situation stressante, la première pensée qu'il va aller chercher, c'est pas la plus rationnelle. La première pensée qu'il va aller chercher, c'est la pensée qui est la plus catastrophiste. Et à raison, hein, parce que ça va permettre d'envisager le pire, etc. Mais parfois, eh bien, il a des pièges, il tombe dedans, d'accord ? Et c'est ce qu'on appelle les distorsions cognitives. Alors les distorsions cognitives, ça va être une étape dans le programme. Identifier quelles sont les pensées déformées. Quelles sont nos pensées déformées ? Quelle est notre façon d'interpréter le monde ? Vous voyez par exemple, on peut se mettre des étiquettes parfois. Ok, je suis en train de vous donner un exemple, il est pourri, je bégaye, je suis nul. Je viens de me mettre une étiquette. Eh bien, c'est exactement un système de pensée que le cerveau adore. Vous allez prendre un élément spécifique, vous allez en faire une généralité sur vous. Voilà une forme de distorsion cognitive. Voilà ce qui parfois peut être une réaction directe au stress. Vous pouvez également avoir, je ne sais pas moi, lire dans la pensée. Et ça, on est très fort, les êtres humains. Vous voyez, je pense que la personne est en train de penser que je suis là, sur scène, je pense que tout le monde est en train de rire de moi. Vous voyez, je suis en train de faire une lecture de la pensée. Et alors, tant que je ne le vérifie pas, pour moi, c'est une certitude. Et là, on rentre dans des complexités, parce que j'en sais rien en vérité. Et ça, c'est quelque chose qui peut vraiment provoquer le stress. Alors, il y a aussi le « devrait ». Chez les soignants, on a beaucoup ça. Je devrais être capable de me débrouiller tout seul ou toute seule. Je ne devrais pas avoir à demander de l'aide. En fait, on s'auto-flagelle. Parce que le « devrait », qu'est-ce que c'est? C'est que si on ne le fait pas, alors on est dans le faux. Je devrais être. Vous voyez? Donc ici, on voit qu'il y a différentes formes de distorsion cognitive, et ces distorsions, elles sont extrêmement importantes à repérer. Parce qu'elles conditionnent directement la relation que les individus peuvent avoir avec leur stress. Alors une solution, et puis voilà, je peux prendre une situation, qu'est-ce qu'on fait? On va apprendre à l'individu à restructurer un petit peu sa pensée, à améliorer un petit peu la relation que l'individu va avoir avec sa pensée. Vous voyez, vous recevez un mail de votre responsable, peux-tu me passer me voir demain, sans aucune précision, peut-être que les premières pensées que vous allez avoir, c'est j'ai fait une bêtise, je suis vraiment nul, je vais forcément me faire recadrer. D'accord? Donc là, déjà, une fois qu'on a travaillé sur les distorsions cognitives, on va les identifier avec l'individu. Est-ce que c'est faussé? Ben oui, ici, vous mettez une étiquette, vous faites une fausse prédiction, parce qu'en fait, on n'en sait rien, on n'est pas encore devant. Donc, les émotions qui sont associées forcément, de l'anxiété. Vous voyez, symptômes de stress, crispation, tension musculaire, problème de sommeil, peut-être que vous allez avoir du mal à vous endormir. Et donc, il y a cinq étapes qui sont importantes. La première, c'est celle-ci, qu'on appelle awareness, c'est le A, prendre conscience. Ensuite, B, belief, à quel point j'adhère à cette pensée? Est-ce un fait ou une interprétation? Déjà, on peut se le poser, peut-être que le problème peut s'arrêter là. Je pense que je suis nul. Est-ce que vraiment j'adhère à cette pensée? Posez-vous la question. Déjà, ça peut faire descendre un petit peu. Si jamais c'est pas le cas, c'est pas grave. On va venir challenger. Donc B, c'est belief, C, c'est challenge. Que dirais-je à un collègue qui serait dans la même situation? On se décentre. Vous voyez? Si par exemple, ici dans l'exemple, vous recevez le mail, peux-tu me passer me voir demain, sans autre précision? Qu'est-ce que vous diriez à votre ami? Est-ce que vous lui diriez, bah ouais, t'as fait une bourde, t'es nul? Dans ce cas-là, bah, vous êtes un mauvais ami, certainement. Et dans le cas contraire, et ben, pourquoi vous l'appliquez à vous? Essayez de vous poser la question, si je suis très bon conseil pour l'autre, et si c'est valable pour l'autre ce que je suis en train de dire, pourquoi ça ne l'est pas pour moi? Se poser la question, c'est aussi se décentrer, et ça, ça fait du bien. Donc, ça peut être un outil. Et puis ensuite, une fois qu'on a décentré, ben, on remplace par une pensée un peu plus rationnelle. Ce mail ne précise pas la raison du rendez-vous, il peut s'agir d'un point administratif, je verrai demain, en fait, j'en sais rien. D'accord? Donc, voilà. Et bien sûr, ça, c'est quelque chose qui ne se fait pas pendant la situation stressante. Je rappelle qu'on a 16 heures de programme, c'est 30 minutes. Je n'imagine pas qu'ici, en repartant, vous allez identifier vos pensées déformées. Mais par contre, pensez que c'est possible. On est capable de créer des automatismes, le cerveau a des automatismes, et il va venir capturer la première pensée qui ne sera pas forcément la plus rationnelle. Alors, il est aussi capable, avec de l'entraînement, d'aller se pencher sur des solutions un peu plus rationnelles. Il faut juste l'entraîner. Et donc, à la fin, bien sûr, on évalue si on se sent mieux. Ok? Donc ça, c'était un outil, le dernier outil que je vais vous présenter aujourd'hui, parce que j'en présente deux, hein, qu'il y en a une multitude, mais je pense que ça, c'est un petit peu la quintessence dans le CBSM, c'est-à-dire mieux communiquer pour réduire le stress, c'est aussi fondamental. Dans le CBSM, on va avoir des choses qui sont extrêmement internes à l'individu, mais il faut aussi, à un moment donné, comprendre comment on fait pour exprimer un besoin. Eh bien, les êtres humains, hein, encore une fois, on est très forts pour ça. Et très souvent, qu'est-ce qu'on fait? On utilise le « tu ». Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Voilà, vous prenez un reproche, et qu'est-ce que vous faites? Vous répondez par un reproche. Par exemple, je ne sais pas moi, si on vous dit, vous êtes au travail, si on prend l'exemple du travail, vous êtes au travail, et puis on vous dit, bah là, voilà, c'est la troisième fois cette semaine, mais bon, il va falloir que tu restes encore un peu plus tard cette fois-ci. Et là, peut-être que vous allez vous énerver, peut-être que vous n'allez rien dire aussi, peut-être que vous allez vous énerver, puis vous allez dire, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil avec moi, tu fais toujours la même chose, pourquoi, etc. En fait, on utilise le « tu ». Alors que ce n'est pas forcément la solution la plus efficace. Ici, je vous propose un modèle qui va vous permettre d'exprimer un besoin, que ce soit au travail, que ce soit dans votre quotidien, de façon organisée, adaptée, et surtout maximiser le potentiel de réponse positive que vous pourriez avoir. Et donc, ça passe par plusieurs étapes. La première, c'est déjà d'observer les faits, factuellement, sans utiliser le « tu ». Vous voyez? Qu'est-ce que j'observe factuellement? Donc, on m'a demandé cette semaine, donc trois fois, de rester un peu plus tard. Ok, c'est un fait. Qu'est-ce que je ressens? Et ça, ça va être important. N'utilisez pas le tu, utilisez le je. Qu'est-ce que vous ressentez? Parce que ça, ça vous est intime. Personne ne pourra le remettre en question. Vous voyez? C'est beaucoup plus difficile de dire à quelqu'un, bah non, t'es pas triste. Bah non, t'es pas frustré. Bah non, tu n'es pas anxieux. Alors que si on utilise le tu, la personne peut toujours être en train de dire ça sur moi, et donc c'est l'escalade, et donc on n'y arrive plus. Or, si vous utilisez le je, la personne, elle aura des difficultés à remettre en question ça. Donc ici, si on prend l'exemple, on m'a demandé de rester trois fois cette semaine un petit peu plus tard. Qu'est-ce que je ressens? Je me sens fatigué, je suis frustré, je sens que c'est en train de m'épuiser. D'accord? Vous êtes transparent, vous le dites. Et donc, de quoi j'ai besoin? Ensuite, exprimer son besoin. Sans parler d'action, vous exprimez le besoin. J'ai besoin de récupérer et j'aurais besoin d'avoir un cadre un peu plus prévisible. Est-ce que c'est possible? Donc, je suis déjà dans la dernière étape, vous demandez sans exiger. Et vous proposez à la personne. Est-ce qu'on pourrait anticiper davantage? Est-ce que c'est possible qu'on en discute? Vous voyez, en fait, dans cette diffusion, ce que vous faites, alors bien sûr que la personne elle pourra répondre, bah non, c'est mort, mais vous allez avoir beaucoup plus de facilité déjà à exprimer quelque chose, parce que une des raisons du stress chronique, c'est la non-expression de ses propres besoins, et souvent c'est le cas au travail, on prend sur soi, on prend sur soi, on prend sur soi, et à un moment donné on explose, on s'épuise, et l'organisme il s'effondre. Alors qu'une façon de le faire, c'est aussi d'organiser son discours. Et de se mettre au centre du problème plutôt que d'essayer de toucher des choses qu'on ne peut pas toucher. Vous voyez? La lecture de la pensée, essayer de toucher ce que les personnes ressentent, finalement, c'est très dangereux. Alors que si vous parlez de vos propres ressentis, et là, vous êtes maître et maîtresse de vous-même, personne ne pourra remettre ça en question. Donc ça, c'est une façon de faire. Et donc, je vais synthétiser un petit peu, parce que je vois que je retourne. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette présentation? La première chose, c'est que le stress, c'est une réaction normale d'adaptation. Déculpabilisez-vous de ressentir du stress. Vous ne vous en débarrasserez pas. Parce que le stress vous permet l'adaptation. Et c'est bien de stresser. Okay? Le stress aigu, ce n'est pas le stress chronique. La réaction d'adaptation, ce n'est pas la même chose que la chronicisation du stress qui, là, est délétère pour l'organisme. D'accord? Ensuite, une même situation peut générer des réactions différentes. On l'a vu dans l'exemple. Une situation ne peut pas être interprété de la même façon par tout le monde. Donc il n'y a pas de stress objectif. Il y a une interprétation de la situation stressante. Nos pensées automatiques influencent le niveau de stress, ça c'est vrai. La première interprétation, la première pensée qu'on va avoir dans une situation stressante va venir directement influencer le niveau de stress qu'on va avoir. Et alors, le stress chronique se prévient avec des outils concrets à échelle individuelle, ça veut dire que c'est possible d'agir à échelle individuelle. Ça ne veut pas dire que c'est suffisant. Et ça m'amène au dernier point, le point le plus important, vous n'êtes pas responsable de votre épuisement. Et je finirai avec une citation de Krishnamurti qui dit que finalement, il n'est pas signe de bonne santé mentale que d'être adapté dans un monde malade. Et je pense que cette phrase elle a du sens parce que parfois on cherche l'adaptation à tout prix, on essaie de cibler l'individu alors que le problème il va bien plus loin que ça et il est sociétal. Et dans le cadre du burn-out, je pense qu'on est clairement dans cette problématique-là. Donc c'est très important pour moi que le message que vous gardiez de cette présentation, c'est déjà la déculpabilisation de ce que vous ressentez et de ce que vous exprimez. Et bien, je vous remercie pour votre attention. Et bien, si vous avez des questions, je serai très heureux de pouvoir y répondre.
Merci infiniment Nour pour la qualité et la concision de cette présentation et le super respect du timing. Et comme vous l'avez dit, c'est le temps des échanges, des questions. Écoutez, j'ai une espèce de bâton de parole, voilà, donc ça aidera à mieux communiquer.
En fait, c'est pas une question, c'était en écoutant votre. Ce que vous avez dit, c'était une problématique sociétale, je suis d'accord. Et moi, pendant que vous parliez, j'ai un peu écrit un truc, le stress est impacté par la société, du coup, il faudrait changer toute la société pour ne plus être stressé, ne plus être dans une société individualiste dépendante de l'argent. Et en fait, il faudrait revoir tout, pour moi, en fait, ce serait à partir, il faudra tout revoir, parce qu'en fait, souvent on dit que le burn-out, je sais pas comment dire, mais en fait, souvent on pense qu'on peut arrêter le stress chronique, mais en vrai, c'est impossible parce qu'on n'a pas le choix. En fait, on continue à rester dans cette société qui nous détruit. Donc, en fait, c'est pas une non-adaptation de l'organisme, mais une non-écoute de soi par l'être humain, en fait. C'est juste, en fait, on s'écoute pas et c'est tout, en fait. C'est surtout que le burn-out est impacté parce que, en fait, bah, on s'écoute pas.
Effectivement, mais merci déjà pour votre témoignage. Je suis à 100% d'accord avec vous. La question de l'écoute, elle est centrale. Et d'ailleurs, c'est aussi une question qu'on peut aborder. Alors, je proposais quelques ouvrages, bien sûr, à la suite de l'intervention, mais il y en a un qui est fondamental et qui reprend un petit peu ce que vous dites, qui est cette question de l'accélération de la société. Et en fait, dans ce que vous dites, il y a un point qui est fondamental, c'est la non-écoute de soi. Et en fait, la non-écoute de soi, elle découle directement aussi du manque de temps qu'on a pour s'écouter. Et ce manque de temps dépend de l'accélération aussi de la société. On a une accélération accrue des groupes sociaux, une accélération accrue du rythme de vie, une accélération de la technique. Et en fait, le temps pour soi, eh bien, il est de plus en plus difficile à trouver. Et effectivement, peut-être qu'une des premières formes de prévention qu'on peut avoir à échelle individuelle, c'est déjà prendre le temps de s'écouter, de prendre conscience. Donc en écoutant un petit peu ce que vous dites, il y a l'idée aussi d'être conditionné très tôt à avoir ce fonctionnement qui est un hyper-fonctionnement d'une certaine manière, sur investissement qui peut mener effectivement à l'épuisement. Il faudrait revoir du coup les structures de ce qu'on enseigne, effectivement.
Bonjour, merci beaucoup. Quand on retrouve du stress chronique dans une même famille, est-ce qu'on sait s'il peut y avoir quelque chose qui est de l'ordre héréditaire, ou est-ce que c'est plus dans la façon dont les enfants ont de se construire dans ce milieu familial qui va être plus acquis?
Merci beaucoup, c'est une question très pertinente, je trouve. En fait, il faut imaginer, je ne sais pas pourquoi j'ai cet exemple, donc voilà, ne me flagellez pas là-dessus, je vais le prendre. Vous voyez, vous connaissez Dr Maboul, le petit jeu. Et puis, c'est un jeu qui finalement va dépendre de la sensibilité des surfaces quand vous essayez de faire passer l'os, etc. Eh bien, vous avez un petit peu la même chose quand on parle de stress, c'est-à-dire qu'il y a une jauge. Et cette jauge, elle peut varier. Il y a des individus qui vont être plus ou moins sensibles que d'autres, et l'alerte, elle va être donnée plus ou moins rapidement. Vous voyez cette petite alerte rouge là qui est donnée dans le jeu, eh bien, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il y a des individus pour lesquels la réaction d'alerte va être beaucoup plus facile à mettre en place et donc plus rapide. Des individus qui vont être notamment sur le qui-vive et qui vont constamment avoir cette réaction de stress, et pour certains individus un peu moins. Et ça peut effectivement s'expliquer en partie par des prédispositions génétiques. Donc ça, c'est une partie. On ne peut pas expliquer que c'est très difficile de résumer la réaction de stress à quelque chose de génétique, parce qu'en fait, ça dépend aussi de l'environnement dans lequel on vit. Mais pour autant, il y a effectivement des prédispositions génétiques. On sait aussi notamment qu'autour de la périnatalité, le fait de parler de sujets stressants avec un enfant dans le ventre peut conditionner la réaction du stress de l'enfant plus tard, du coup. Voilà. Donc en fait, oui, pour répondre à cette question-là, il y a des facteurs génétiques qui peuvent venir influencer directement la réaction physiologique du stress. Ouais. Et cette réaction physiologique, cette sensibilité, elle est différente selon les individus.
Oui, alors merci. D'accord. Par rapport à la définition du burn-out, ouais. Vous avez parlé du stress professionnel chronique. Est-ce que ça se concentre uniquement sur le professionnel, ou est-ce qu'on peut aussi avoir un burn-out suite à un accouchement, suite à des jumeaux, ce genre de vie familiale stressante, ou c'est uniquement professionnel? Et mon deuxième point, c'était, vous n'avez pas du tout parlé, je ne sais pas si ça a un lien, c'est très positif pour moi en tout cas, du rapport à la nature et de pouvoir justement avoir des échappatoires naturels, loin des écrans, loin de tout ce qu'on vit, de tous ces réseaux sociaux et autres. Et je trouve que, enfin, pour moi, le rapport à la nature, des balades, plutôt que d'aller dans les magasins, faire du sport, des choses simples, ça m'aide énormément pour me ressourcer, notamment près des arbres, puisqu'on sait que c'est très bénéfique. Merci.
Bah effectivement, merci beaucoup pour vos deux interrogations. Et alors, pour la première, c'était un choix lié aujourd'hui de vous parler d'épuisement professionnel. Pour autant, dans la position également que je prends dans mes recherches, je pense que l'épuisement ne se résume pas à la profession. Et d'ailleurs, on le voit, parce que ça voudrait dire que pour arrêter un burn-out, il suffirait d'arrêter le travail. Or, on se rend compte que des personnes qui sont en arrêt maladie, continuent d'être épuisées. Donc, ça, c'est un point qui est fondamental. Ensuite, aujourd'hui, on a on voit émerger dans la littérature d'autres formes d'épuisement, qui sont, par exemple, l'épuisement parental, le burn-out parental. on voit également le burn-out autistique apparaître. On a également le burn-out des étudiants. On a le burn-out sportif. Eh bien, ça quand même, ça nous amène à une question qui est fondamentale, c'est de quoi on parle quand on parle d'épuisement. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de classification claire sur l'épuisement professionnel, s'il est absent des différentes classifications internationales, c'est pas pour rien. C'est aussi parce qu'on a du mal à le saisir. Et en fait, peut-être que pour mieux comprendre le burn-out, il faudrait déjà arrêter de le résumer à quelque chose qui serait uniquement professionnel, mais plutôt un effondrement personnel face à une situation qui peut être déjà l'investissement de soi, tout simplement, que ce soit au travail, que ce soit avec un enfant, que ce soit dans le sport. Mais pour moi, le burn-out, il commence avant tout par un investissement et un hyper-investissement. Ça, c'est la première chose. Donc, je prends le risque de dire que je pense que le burn-out ne se résume pas à la profession. C'est pas tranché, d'accord ? Donc, il faut enrichir le débat, je pense, mais en tout cas, c'est une position que je prends pour vous répondre. La deuxième question que vous abordez, qui est celle de couper, je pense que c'est fondamental aussi, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, et tout à l'heure, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais en même temps, ça rentre dans ce qu'on appelle les facteurs contextuels, et on se rend compte qu'effectivement, l'environnement joue un rôle fondamental dans le rapport qu'on va avoir à nous-mêmes, à la santé mentale, de façon générale, et... je pense qu'il y a une phrase, moi je trouve assez juste justement dans Aliénation et l'accélération de Dartmouth Rosa, c'est de dire qu'en fait la société accélère mais on a le choix de ralentir. Et faire le choix de ralentir, ça peut être, par exemple, effectivement, se couper. Vous voyez, à l'hôpital par exemple, je travaille avec des soignants, il y a des personnes qui ne voient pas la lumière de la journée. Or on sait que juste sortir, prendre l'air, prendre le soleil, quelques minutes dans la journée, eh bien ça favorise déjà une meilleure santé mentale dans la journée. C'est-à-dire que les personnes se sentent un peu mieux juste parce qu'elles sont sorties. Alors c'est rien, d'accord, par rapport à l'échelle que c'est d'être soignant, mais rien que ça déjà, c'est important. Donc oui, il ne faut pas minimiser l'effet de l'environnement, je suis à 100% d'accord avec vous. Merci pour votre question.
Merci pour cette présentation super synthétique. Du coup, moi j'ai deux petites questions. La première, déjà, c'est sur le CBSM, sur les effets à long terme notamment, où je me questionnais sur, est-ce que si on fait une intervention CBSM sur des soignants, est-ce que 3 ans plus tard, ils continuent à avoir moins de stress que leurs collègues qui n'auraient pas bénéficié de cette intervention? Ma deuxième question, elle rejoint un peu les discussions qu'il y avait et que tu avais décrites en ouverture, qui sont que le stress, finalement, elles ne sont pas dues à l'individu lui-même, mais finalement à l'environnement. Et ma question, c'est, en dehors du CBSM qui se concentre un peu sur l'individu, est-ce qu'il y a des interventions, on va dire, structurelles sur l'environnement, pour rester sur les soignants, sur l'environnement des soignants, qui font qu'on permet de diminuer le stress dans le milieu de travail?
Eh bien, merci beaucoup pour ta question. Alors, pour répondre à la première... il faut imaginer une démarche expérimentale, c'est un peu l'idée que j'entends, hein. C'est-à-dire, comment on vient mesurer l'efficacité du CBSM? Et bien moi, par exemple, dans le cadre de mes recherches, ce que je fais, c'est que effectivement, on va distribuer ce programme à un groupe d'individus, un groupe de soignants, et puis on va avoir un groupe contrôle. Vous voyez, comme les médecins vont avoir un placebo. Nous, c'est un peu ce qu'on va avoir. Et l'idée, c'est de comparer ces deux groupes à travers le temps et de voir comment leur santé mentale évolue. Alors, pour ma part, c'est extrêmement difficile de dire à des personnes, non, vous n'aurez pas accès au programme. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on leur dit, vous allez avoir accès au programme un peu plus tard. Mais on les compare quand même pendant ce temps. Il y a un premier groupe qui vient et puis l'autre ne vient pas tout de suite. On compare le groupe, etc., à travers le temps. Alors, pour les soignants, c'est pas. Parce que ça n'a jamais été fait, c'est le cadre de ma thèse. Mesurer justement dans quelle mesure les effets peuvent perdurer dans le temps. Et surtout, quels en sont les modérateurs. Mais on sait que pour d'autres populations, notamment des populations pathologiques, donc c'est la population générale, on peut avoir des effets qui vont perdurer jusqu'à 11 ans après l'intervention. Donc ces effets, c'est du randomisé contrôlé qui va durer dans le temps, mais il faut déjà définir qu'est-ce que c'est être efficace, qu'est-ce que les personnes gardent après 11 ans. Et en fait, c'est juste que les personnes gardent une certaine flexibilité et une certaine introspection qu'elles n'avaient pas forcément avant. Autrement dit, elles sont plus à même d'identifier quand leurs stratégies sont efficaces ou pas, quand les pensées automatiques sont déformées ou pas. Ça, c'est des compétences que les personnes gardent sur le long terme. Par contre, si on parle de l'épuisement professionnel, on se rend compte que la plupart des interventions individuelles ne permettent pas, et là, je suis assez pragmatique là-dessus, d'améliorer l'épuisement professionnel sur le long terme. On se rend compte qu'à un moment donné, l'épuisement, il revient. Donc, ta deuxième question, du coup, c'est la solution des interventions qui seraient plutôt structurelles. En fait, il y a des interventions qui existent, mais malheureusement, elles sont encore trop spécifiques à des institutions particulières. Donc, encore une fois, inégalitaire aussi. On a des institutions qui vont pouvoir avoir les moyens de réformer l'organisation de l'institution. C'est très coûteux. Ça prend prend du temps. Et en fait, ce temps-là, parfois, il va venir maximiser l'épuisement que la personne va avoir. On peut imaginer que réformer une structure, ça peut prendre des fois des années, et la personne vient le temps de s'épuiser. Et encore une fois, ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est que, en fait, agir sur l'environnement, ce serait la solution. Mais si l'individu change d'environnement, alors il perd ses compétences. Donc, en fait, quand on agit sur l'individu, on rend l'individu flexible. C'est-à-dire qu'il vit la situation stressante, il est dans l'hôpital, et s'il change d'environnement, eh bien, il garde les compétences qu'il a acquises. Et ça, on peut dire que l'avantage que peuvent avoir les interventions individuelles face aux interventions qui vont plutôt être organisationnelles, c'est de favoriser l'adaptation de l'individu, la flexibilité de l'individu. Mais par contre, sur le long terme, c'est pas suffisant. Il faudrait coupler les deux. Voilà. Il faudrait avoir des interventions organisationnelles, réformer la structure. Moi, ce serait vraiment l'idée. Et d'ailleurs, quand on fait des interventions individuelles, qu'est-ce qui se passe? C'est que les individus, ils sont plus à même de poser les mots sur leurs ressentis. Donc, quand ils font remonter leurs ressentis à la direction, ils sont plus écoutés. Et donc, on peut imaginer qu'à la longue, on peut avoir des réformes structurelles. En tout cas, c'est comme ça que je fais passer aussi mon message. Parce que moi, mon but, c'est pas de dire aux gens, prenez un programme, déployez-vous, soyez plus épuisés, quoi. L'idée, c'est quand même de faire changer les choses d'un point de vue structurel. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord.
Moi, je me posais la question, est-ce qu'il y a une différence entre le stress et l'anxiété? Et deuxième point, est-ce que c'est vraiment souhaitable d'avoir aucun stress dans son travail?
Merci pour cette question qui a été posée pas plus tard qu'hier. Donc, c'est intéressant, c'est des réflexions que j'ai actuellement dans le cadre de mon travail. Qu'est-ce qui vient différencier le stress de l'anxiété? Alors, pour essayer d'imager, il faut imaginer que l'anxiété pourrait se poser sur la réaction de stress. Et il y a une métaphore que j'aime bien, c'est celle du mammouth. Vous voyez, vous dites, quand vous avez la réaction physiologique de stress, est-ce que vous avez le mammouth en face de vous? Quand vous vivez de l'anxiété, eh bien, c'est que le mammouth est dans votre tête, il n'est pas là. En fait, quand vous vivez de l'anxiété, vous êtes déjà dans la prédiction, vous êtes déjà dans... vous envisagez l'avenir. Parce que l'anxiété, en fait, ça sert à quoi? Finalement, l'anxiété, c'est d'essayer d'envisager le pire. D'accord? C'est pour ça. L'anxiété a une fonction adaptative. Hein. Toutes les émotions. L'anxiété en fait partie. L'anxiété peut être positive. On peut se dire, en fait, c'est une bonne chose de pouvoir envisager ce qui va se passer de pire. Mais par contre, si ça hyperfonctionne, on peut imaginer que c'est néfaste pour l'organisme. Donc la différence entre les deux, c'est que pour le stress, c'est une réaction physiologique. D'accord? Face à un stresseur qui est présent. L'anxiété, c'est aussi une réaction physiologique, mais c'est une émotion qui va être présente, mais quand le stimuli n'est pas encore là, il n'est pas encore arrivé. L'anxiété, elle est dirigée vers l'avenir. Et ensuite, elle peut être diffuse. On peut être anxieux sans forcément avoir de raison. Pour le stress, c'est plus difficile. Très souvent, il y a un stimuli qui vient provoquer la réaction de stress. Ça, c'est pour la première réponse. Pour la deuxième, je pense que il faut avoir du stress. Mais parce que c'est vrai qu'on n'a pas assez parlé, mais en fait c'est pathologique de ne pas avoir de stress. En fait, des individus qui ne s'adaptent plus, c'est des individus qui sont plus capables de se mobiliser. L'adrénaline, on parlait d'adrénaline tout à l'heure, c'est une hormone qui vous permet de vous réveiller le matin. Le cortisol, le matin, c'est ce qui vous permet de faire face à la journée. Vous n'avez pas de cortisol, vous restez dans votre lit. Donc, je pense que c'est souhaitable d'avoir un peu de stress quand même. Ouais.
Donc j'ai bien noté que je peux stresser mon équipe.
Ce n'était pas le message, Jean-Yves.
Deux remarques et une question. Alors la remarque, c'est par rapport au stress ou au burn-out plus exactement, quand on parle de l'entourage, je trouve qu'il faut être méfiant. En médecine physique, peu de gens sont médecins. Quand on parle psychologie ou quand on parle difficultés psychiques ou psychologiques, tout le monde a sa petite version et tout le monde a sa petite soupe sans pour autant être toujours très rationnel. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que le burn-out dans le monde du travail, tout le monde a applaudi lorsqu'on a parlé de télétravail. Et moi, je trouvais que le télétravail, c'était un palliatif quand on a eu l'épisode Covid. Seulement, l'inconvénient, c'est qu'on ramène ses problèmes professionnels à la maison. Et quand on est à la maison, c'est pas pour être au travail. Donc, ça devient difficile de dissocier la problématique professionnelle quand on est en télétravail. Ça, c'est l'interrogation que j'ai. Et enfin, par rapport à l'aliénation et l'accélération, alors les entreprises essayent de mettre en place des moyens de déconnexion, je crois que ça s'appelle, enfin pour éviter que les agents ou que les employés restent sur. Mais si c'est pour aller se ruer sur les réseaux sociaux et y passer toute une soirée au détriment de l'éducation de ses propres enfants, je ne vois plus ça d'un bon œil. Voilà. Donc, merci pour l'exposé. Et voilà les interrogations que j'ai par rapport au burn-out, qui est pour moi quelque chose qui n'est pas assez pris en charge dans la société actuelle et qui mériterait une définition unanime. Merci.
Ben, merci beaucoup. Alors, il va m'être très difficile de répondre à toutes ces réflexions qui sont très intéressantes, notamment quand vous parlez de relations au travail. Je pense effectivement que le télétravail, c'est une vraie question hein, qu'on peut se poser sur la relation qu'on a avec le travail et comment ça va venir influencer directement l'épuisement et bien des individus et la dissociation que les personnes peuvent faire entre leur lieu de travail et puis le lieu où ils habitent, effectivement. Ensuite, pour la question de la définition du burn-out, ça c'est plus difficile. Aujourd'hui, les chercheurs ne sont pas d'accord entre eux. On recense plus d'une centaine de définitions de l'épuisement. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on a aussi l'émergence de nouvelles formes d'épuisement. Donc, cette question de la difficulté de la définition amène forcément l'aspect de non-prise en charge de l'État. On sait qu'il y a des pays qui ont essayé, la Suède, le Japon. Au Japon, on a notamment le karoshi, qui est la mort par le travail, qui implique du coup, pour les institutions, de mettre en place des interventions, etc. Pour la Suède, on a essayé avec le trouble de l'épuisement, si on appelait ça le trouble de l'épuisement. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a vidé les caisses de l'État. En fait, parce que tout le monde se mettait en arrêt. En fait, il y a des vraies questions. Hein. Aujourd'hui, le fait de ne pas avoir de diagnostic de burn-out, les raisons ne sont pas que structurelles. Ce n'est pas que des questions de définition, c'est peut-être aussi une raison politique et économique qui fait qu'aujourd'hui, si on autorise le diagnostic de burn-out, qu'est-ce qui se passerait? Voilà. Et en fait, eh bien, il y a des conséquences qui vont être économiques, et des conséquences qui vont aussi être individuelles. Et je pense qu'on peut enrichir le débat. Hein. Moi, pour ma part, le fait de reconnaître le burn-out comme une maladie ou un trouble lié au travail, eh bien, pour moi, ça a des avantages quand même. Ça permettrait déjà de déresponsabiliser l'individu vis-à-vis de son propre épuisement, de sa propre souffrance, parce que c'est beaucoup plus facile de dire à l'individu bah, « vous êtes responsable » que de dire « vous avez un épuisement et c'est peut-être en partie à cause de nous, institution ». Donc effectivement, je pense que déjà, ça aurait un avantage. Par contre, quel désavantage ça pourrait avoir d'un point de vue structurel, économique, politique, on peut aussi se poser les questions. Donc, le débat est ouvert. Voilà, il faut se poser la question. Bon, puis voilà, je ne l'ai pas abordé ici, mais peut-être le faire rapidement, mais on a abordé la question de l'épuisement professionnel, du burn-out, on n'a pas parlé de bore-out. En fait, c'est tout aussi épuisant de s'ennuyer dans son travail que d'être hyper productif. On a des nouvelles formes d'épuisement. Hein. Alors, les processus ne sont pas tout à fait les mêmes. Pour autant, l'effondrement de l'organisme face au travail est présent. D'ailleurs, les premières observations de l'épuisement étaient notamment dues à cette forme de relation au travail, chez les téléphonistes notamment. Ça, c'était dans les années 50. Donc, voilà, il y a d'autres formes d'épuisement. Aujourd'hui, la question de la définition, elle est importante, mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est pas tant de classifier, de diagnostiquer et de dire « vous êtes » en burn-out, ce qui est important, c'est déjà de comprendre les processus qui sont en jeu. Parce que si on comprend les processus qui sont en jeu, alors on est plus à même d'avoir des actions de prévention. On n'est pas obligé de coller une étiquette sur la personne. La personne, on sait qu'elle rumine, on sait qu'elle a telle souffrance. En fait, ce qui est important, c'est aussi de la prendre en charge. Aujourd'hui, même s'il n'y a pas de classification, même s'il n'y a pas de diagnostic, on est capable de prendre en charge. Parce qu'on connaît les processus et on sait que par rapport à des outils de mesure, les personnes peuvent aller mieux. Donc pourquoi s'empêcher de les prendre en charge ?
Bonjour, moi j'ai une question sur le diagnostic. Est-ce que vous avez des outils accessibles pour faire un état des lieux dans une organisation pour savoir quel est l'état de le niveau de stress des salariés par exemple? Et j'ai une deuxième question.
Ouais.
Qu'est-ce que vous pensez des organisations qui, face à un état de stress un peu général dans l'entreprise, ont pour seule réponse de mettre en place par exemple des cours de yoga ou des choses comme ça? Merci.
Ouais, c'est des questions qui sont intéressantes. Alors pour répondre à ta première question, je pense que déjà ça va être très important pour l'institution de savoir ce qu'elle mesure exactement et précisément. Qu'est-ce qu'elle veut mesurer? Parce que si elle veut mesurer le stress, eh bien, on a vu, c'est pas si évident que ça. On a aujourd'hui des échelles de stress qui sont, par exemple, l'échelle de stress perçu, ce qu'on appelle la PSS. C'est une échelle qui a été développée par Cohen en 1984. C'est une échelle qui permet de mesurer le stress perçu par l'individu. Ça, c'est une façon de se dire, ok, l'individu est plus ou moins stressé. En fait, c'est pas vraiment ça. C'est surtout se dire, l'individu perçoit l'environnement comme étant stressant. Ça, c'est ce qu'on mesure. Après, si on veut mesurer l'épuisement, on a des échelles de mesure qui existent et qui ne sont pas à visée diagnostique. On ne diagnostique pas à quelqu'un un stress. C'est normal. On va juste surtout regarder le niveau de stress de la personne. Pour le burn-out, on a notamment la MBI, c'est la Maslach Burnout Inventory, et c'est de Christina Maslach, justement, qui a été faite en 1981, et qui va venir mesurer les différentes dimensions de l'épuisement professionnel, qui sont l'épuisement émotionnel, la dépersonnalisation et le manque d'accomplissement personnel. Et donc ça, c'est une échelle qui est utilisable. Voilà. Mais bon, en fait, moi, je me pose surtout la question de qu'est-ce qui se passe après. En fait, ces outils-là, il faut imaginer que ce sont des outils qui sont très utilisés par des psychologues ou des personnes qui, voilà, qui peuvent les utiliser. Et je pense que ce n'est pas forcément une bonne chose que certaines institutions s'approprient ces outils-là pour poser des diagnostics sur les individus. Par contre, si ces outils permettent de guider des politiques et accompagner les individus au mieux dans leur santé mentale, pourquoi pas ? Mais il ne faut pas qu'il y ait derrière une interprétation qui serait néfaste pour l'individu. Et donc pour ta deuxième question, non. Évidemment, et ça je pense que certains collègues peut-être de prévention pourraient aussi en parler, mais je pense que c'est extrêmement important pour les institutions de bien saisir quels sont les enjeux et quels sont les déterminants qui viennent produire l'épuisement professionnel. Quand en fait on donne un cours de yoga, c'est un peu comme si je disais, ok, eh bien, je viens d'observer quelque chose, venez on teste, venez on prend un cours de yoga, on essaye et on voit ce qui se passe. Alors qu'en fait, ça devrait être plus complexe que ça. On sait, dans la littérature scientifique aujourd'hui, qu'il se passe telle problématique. On sait quels sont les déterminants. On sait que c'est la charge de travail qui pose problème. Eh bien, alors on va jouer sur la charge de travail. Les personnes, elles ont peut-être pas besoin d'un cours de yoga. Elles ont peut-être besoin qu'on diminue un petit peu la charge de travail, par exemple. Mais en fait, il faut comprendre quels sont les déterminants pour ensuite pouvoir agir dessus. Donc le CBSM, c'est des déterminants qui sont plutôt individuels. Mais ensuite, alors je dis pas que le cours de yoga sera inefficace. C'est pas ça. Mais il faut essayer de comprendre sur quoi. C'est juste ça, voilà. Et pas juste le donner au hasard.
Il nous reste encore une seconde, donc je peux donner une dernière question. Je crois qu'il y en avait deux qui avaient la main. Deux dernières questions.
Moi, c'est juste une question par rapport aux conséquences donc, du burn-out, on parle beaucoup de dépression, tout ça. Je voulais savoir s'il y avait des études faites par rapport aux conséquences sur l'altération de la mémoire.
Ah oui, ouais. Ouais, bien sûr. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, en fait, je ne l'ai pas évoqué ici, mais quand on parle de la réaction physiologique de stress, il y a une structure du cerveau qui est extrêmement sollicitée, c'est l'amygdale. Et l'amygdale, elle va directement jouer sur une autre structure du cerveau qui est très sollicitée, c'est l'hippocampe. L'hippocampe, c'est directement lié à la mémoire. Et on sait qu'un stress chronique va venir influencer directement la mémoire des personnes. Alors, pour différentes raisons, hein. Déjà, de façon cognitive, les personnes, elles vont peut-être avoir une moins bonne mobilisation de la mémoire à court terme. Vous voyez, des petits oublis, des petites choses. Ça, c'est des choses qui sont, voilà, qui sont trouvées. Puis, il y a aussi des problèmes dans la récupération, hein, forcément. On sait que des personnes qui sont en épuisement ont plus de mal à solliciter ce système-là. Donc voilà, il y a des études. Alors, je ne suis pas spécialiste du sujet, hein. Je vous évoque juste ce que je sais là, à ma petite échelle. Mais en tout cas, oui, pour répondre à votre question de façon concise, il y a une relation directe entre l'épuisement et il y a des conséquences sur la mémoire. Tout à fait.
Et pour moi, la question était... au niveau des organisations professionnelles, j'ai déjà remarqué des personnes qui étaient des responsables hiérarchiques qui se sentaient obligées dans leur posture de stresser leur équipe. Parce que pour eux, c'était normal de le faire.
Merci. Donc Jean-Yves, j'espère que t'as bien écouté la question. Toi, tu peux y répondre. Non, ouais, bah, effectivement, alors... Pour répondre de façon concise, oui, bien sûr, c'est vrai que peut-être qu'il y a une ambivalence dans ce que je viens de dire, et c'est vrai que je m'en rends compte, merci pour votre question. Le message, il ne faut pas retenir ce message-là, de dire, alors je sais que le stress est une bonne chose en fait, c'est la réaction physiologique de stress qui vous permet de vous adapter. Or, si on part du principe que une personne qui a une position managériale importante et qui va venir faire ce qu'on appelle un peu du management toxique, c'est-à-dire stresser les individus, on peut bien sûr imaginer que ce n'est pas du tout une bonne chose. Et au contraire, il ne faut certainement pas rentrer là-dedans. Ça ne veut pas dire que... c'est pas parce que le stress est une réaction physiologique normale qu'il faut en abuser. Il faut dire à la personne, ben voilà, donc tu stresses, c'est normal, on abuse, et puis on laisse la personne se débrouiller avec ça. Non, non, pas du tout. Au contraire, il faut être très à l'écoute. Je pense qu'il faut être très très à l'écoute de ses employés. Ouais. Donc, je ne sais pas, oui, ça ne répond pas forcément à la question, mais en tout cas, c'est pas une bonne... je pense que c'est pas une bonne forme de management. Voilà. Alors, il faudrait leur expliquer que du coup, si c'est répété, eh bien, ça peut être nocif pour l'individu parce que justement, ça développe du stress chronique. Et leur expliquer la chronicisation du stress, leur dire, bah, vous voyez, quand vous stressez vos employés, qu'est-ce qui se passe sur l'individu? Et en fait, ils sont plus à même de faire des erreurs. Ils font moins bien leur travail. Ils se sentent moins bien dans l'institution. S'ils se sentent moins bien dans l'institution, ils se sentent moins bien intégrés. S'ils se sentent moins bien intégrés, eh bien, il y a des problèmes plutôt de groupe. Et ensuite, ça a créé des problèmes structurels. Donc en fait, une action qui est anodine peut amener des problèmes structurels derrière aussi. Faudrait les sensibiliser. Oui, bien sûr. Tout à fait. Ouais.
Bon, je crois qu'on est obligé d'arrêter là. Donc, oui. Simplement, petite parenthèse, parce que j'ai une super équipe à Eureka, donc il n'y a pas besoin de les stresser. Ils sont même pas relevés. Ils ne sont pas attentifs. En tout cas, Nour, je vous remercie infiniment pour la qualité de cette présentation. Et je vous donne rendez-vous, bien entendu, dans un mois, le 5 février. Et là, je vous inviterai à lever les yeux au ciel et nous interroger sur de ce qui reste de notre lien au ciel en raison de la pollution lumineuse. Merci à vous, bon appétit pour certains, bon après-midi pour d'autres, et j'espère que vous aurez le temps de visiter le lave-montagne. Merci infiniment, au revoir.